Radio Okapi.
Le journal de Linda Bosuma.
Examen d'État édition 2021. La publication des résultats s'est poursuit à travers la RDC. Hier, le ministère de l'EPST a publié la liste des meilleurs lauréats du Kassai central. Des détails dans un instant. Procès des deux experts de l'ONU tués au Kassai. Les avocats des prévenus suspendent leurs prestations. Ils demandent la mise en liberté de leurs confrères. Maître Prosper Kamalou est détenu comme renseignant par rapport à la vidéo sur la mise à mort de Zaïda Catalan et Michael Sharp. Et puis, un deuxième décès dû à Ebola, enregistré mercredi dans la zone de santé de Beni au Nord Kivu. Cela après la réapparition de la maladie il y a une semaine. Pour en parler, nous recevons le docteur Michel Kasereka, coordonnateur du comité local de riposte contre Ebola. Madame, Messieurs, bonjour. Le ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique a publié hier sur son compte Twitter la liste des meilleurs lauréats de la province du Kassai central concernant l'examen d'État édition 2021 pour l'option latin philosophie. Betupanu Gabriel du collège Saint-Louis a obtenu 71%. Option mathématiques physique, Ntabala Kala la gloire, 73%. Option chimie biologie, Mademoiselle Mapekampuka Honorine du complexe scolaire La reconnaissance, 81%. Option latin-grec, Mademoiselle Biuma Bakatwamba Véronique de l'Institut Lumière des Nations, 75%. La suite des autres meilleurs lauréats de la province du Kassai central avec vous, Alain Irung Mushinji.
Option pédagogie générale, Monsieur Wetu Chambula de l'Institut Bakaya, 70%. Option normale, Mademoiselle Kakunga Ndomba Béatrice du lycée Disru Minyinya, 77%. Option commerciale et gestion, Mademoiselle Ngalulantumba Angela de l'Institut Janua Koeli, 77%. Option secrétariat administrative, Mademoiselle Milolo Kambarut de l'ITI Katoka, 77%. Option industrie agricole, Monsieur Mboui Bachi et Joseph du complexe scolaire Lewes, 76%. Option nutrition, Monsieur Mwakamba Kasongo Antanas de l'Institut Aigle, 70%. Option électricité, Monsieur Tchaba Bantou David de l'ITI Katoka, 70%. Option électronique, Monsieur Bakande Balejaï Joseph du complexe scolaire Les Génies, 71%. Exéco avec Monsieur Mubengayo Kabasele Mathieu de l'ITI Katoka, 71%. Ainsi que Monsieur Mboui Lulenga Sylvain de l'ITI Katoka, 71%. Option pédagogie générale, Monsieur Kassanji Kassanji Richard de l'Institut Ntamboué, 70%. Option vétérinaire, Monsieur Maranda Loua Clovis de LTAV Kalanda, 71%.
L'actualité, c'est aussi l'ouverture hier à Kinshasa du forum de validation du document de politique scientifique nationale, forum organisé par le ministère de la Recherche scientifique et innovation technologique en collaboration avec l'UNESCO. Le document qui sera validé constituera un outil de gestion globale du secteur de la recherche scientifique et innovation en RDC. Des précisions avec Richard Junior Kamunga.
Ces assises de 72 heures offrent un cadre de référence pour mieux piloter le secteur de la recherche scientifique et innovation technologique en RDC. Le document que produiront les scientifiques permettra d'être en cohérence avec les politiques nationales de développement et les engagements internationaux auxquels notre pays a souscrit. José Mpandakabangou, ministre de la Recherche scientifique.
Durant 3 jours, les participants, chercheurs, scientifiques sélectionnés sur base de leur expertise vont apporter leur contribution pour un aboutissement erré de ce long périple qui a commencé depuis 2005 en dotant les pays d'une politique scientifique.
Pour El Hadi Meissa Diop, délégué du représentant de l'UNESCO en RDC, la section sciences de l'UNESCO s'est donnée pour mission de promouvoir et encourager la participation des jeunes et des femmes pour le développement. El Hadi Meissa.
La technologie et l'innovation constituent des éléments clés de la croissance et du développement tant à l'échelle internationale que nationale.
Assistant à cette cérémonie, le Premier ministre Jean-Michel Samalokonde a décoré Dr Jean-Jacques Muyembe avec un diplôme de mérite pour sa contribution exceptionnelle à l'avancement de la science et de la recherche en RDC et à travers le monde.
Sachez aussi qu'en RDC, la redevance touristique est passée notamment dans le domaine de l'aviation de 170 000 à 600 000 dollars grâce à la numérisation de ce secteur. Révélation faite hier à Kolwezi dans le Lualaba par le ministre du Tourisme. C'était lors de la clôture de la semaine congolaise du tourisme. Au cours de cette cérémonie qui était diffusée en direct sur la RTNC, Moderon Simba a précisé que le choix de Kolwezi avait notamment pour objectif de donner aux Congolais le goût de visiter leur propre pays. On écoute le ministre du Tourisme dans cet extrait proposé par Alain Rong Mouchinge.
Parfois, il y a un groupe de jeunes qui considèrent que ceux qui viennent d'ailleurs sont comme des étrangers. Non, nous sommes au Congo, nous sommes à l'intérieur du Congo.
Absolument.
Et nous travaillons pour le Congo. C'est des attitudes à dénoncer et à bannir. Voilà pourquoi j'ai invité les 26 ministres provinciaux pour que chaque ministre parle de sa province et échange avec son collègue afin de mieux vendre la destination interne. Avoir un marché touristique de 80 millions d'habitants, je vous dis, c'est un potentiel. Nous sommes en train de digitaliser les circuits de perception de la redevance touristique. Et je peux vous dire aujourd'hui, dans les domaines d'aviation, nous sommes passés, grâce à la numérisation de ces recettes, nous sommes passés de 170 à 600 000 dollars. Parce que vous ne pouvez plus payer la redevance en Dili. C'est de manière électronique et les sociétés d'aviation virent automatiquement dans les caisses de l'ONT. Donc plus nous allons lutter contre les détournements et les vols de FPT, plus nous ferons un plus dans ce secteur parce que le budget de notre pays est encore minime pour penser à investir massivement dans les infrastructures touristiques qui ne sont pas moindres.
Ici à Kinshasa, les travaux de construction du grand marché Zando n'ont toujours pas débuté après plusieurs mois de destruction des anciens pavillons. Cet espace détruit s'est transformé en une décharge des immondices et sert aussi de latrine publique. Les vendeurs n'ont plus que les espaces des avenues environnantes pour offrir leurs services aux clients. Ils espèrent une solution venant de la plus haute autorité du pays. C'est un reportage signé Jocelyn Poy.
Le grand espace qui abritait les pavillons s'est transformé en latrine, dégageant ainsi une odeur nauséabonde insupportable. Vendeurs et acheteurs évoluent dans une promiscuité qui ne respecte pas les mesures barrières édictées par les autorités. Les vendeurs disent être abandonnés dans leur triste sort. Témoignage.
Il n'y a rien d'avancement comme de bonnes œuvres que puisse se passer si on mangeait, il n'y en a pas. C'est l'échec total.
Comment ça se passe? Toutes ces personnes qui occupaient des pavillons là-bas, ils sont partis où?
Alors, nous sommes abandonnés. Nous sommes abandonnés. Quelles solutions nous ont données?
Chico Balongwa, président du syndicat des vendeurs du grand marché, quant à lui, demande le remboursement de biens des commerçants détruits dans les entrepôts lors de la démolition des pavillons par les autorités de la ville.
Bon, alors, dans tous les pays, moi, je demande d'abord le remboursement des choses de commerçants, ce qui était déjà détruit au niveau du marché centrale, que ça fasse vite parce que tout le monde dans ce pays qui vit toujours dans un petit commerce.
Signalons par ailleurs que tous les efforts fournis par Radio Capi pour contacter les autorités du grand marché n'ont pas abouti.
Justice. Procès des deux experts de l'ONU tués au Kasaï. L'audience d'hier n'a été que de courte durée. La cour militaire de l'ex-Kasaï occidental a constaté que les prévenus n'étaient pas assistés de leurs avocats. Ces derniers, à travers le barreau du Kasaï central, disent avoir suspendu leurs prestations pour demander la mise en liberté de leurs confrères. Maître Prosper Kamalou est détenu comme renseignant par rapport à la vidéo sur la mise à mort de Zaïda Catalan et Michael Sharp. Dans une lettre adressée au premier président de la cour militaire, le bâtonnier Christophe Kawaya soutient que la procédure ne prévoit pas la détention d'un renseignant. Le bâtonnier Kawaya, dans ses propos recueillis par François Kadima.
Le Conseil de l'Ordre constate avec regret que la demande de mise en liberté provisoire en faveur du confrère Kamalou Prosper n'a connu ni traitement ni suite. Le confrère Kamalou Prosper, renseignant de seconde main, ne pouvait pas être détenu en tant que tel, la procédure ne prévoyant pas la détention d'un renseignant. Le Conseil de l'Ordre fustige la justice à double vitesse consistant à mettre l'un de renseignants de seconde main en liberté et continuer à détenir le confrère Kamalou Prosper alors que tous sont poursuivis pour les mêmes faits. Le Conseil de l'Ordre relève en outre le manque de collaboration entre certains acteurs de la justice militaire et le barreau du Kasaï central en ce que le confrère a été accompagné de son bâtonnier sans aucun acte de procédure et curieusement détenu en présence de ce dernier. Maître Kamalou Prosper, avocat près la cour d'appel du Kasaï central, est soumis aux tortures morales en le déplaçant des lieux de détention à tout moment, même à des heures tardives, alors qu'il est asthmatique.
signalant que Maître Kamalou fait partie des 4 derniers enseignants arrêtés dans le dossier du meurtre des 2 experts de l'ONU. Déjà, le journaliste Sosten Kambidi a bénéficié d'une liberté provisoire. Et puis, Radio Okapi poursuit sa série de reportages sur le décryptage du plan de transition convenu entre le gouvernement de la RDC et les Nations Unies en vue d'un retrait ordonné, responsable et progressif de la MONUSCO de la RDC. Aujourd'hui, Jean-Pierre Elali Ikoko nous propose une analyse des 5 derniers jalons de ce plan dont le point d'orgue demeure l'organisation dans les délais des élections crédibles dans le pays. Suivez.
Les jalons 14 recommandent la poursuite de la mise en œuvre par le gouvernement des stratégies de sécurité au niveau national et provincial, ainsi que d'un plan d'action de réforme du secteur de la sécurité en mettant particulièrement l'accent sur le respect des droits humains et les genres. Le point d'orgue demeure l'organisation d'élections crédibles, transparentes, inclusives et pacifiques, comme on peut le lire dans le 15e jalon de ces documents. Le 16e jalon insiste sur la stabilisation des zones minières sensibles grâce à la formalisation progressive du secteur minier et à la réduction significative de la fraude et de la corruption. La finalisation de la réforme foncière, assurant la transparence de l'attribution et de la sécurité de la propriété foncière, est reprise au 17e jalon. Enfin, le jalon 18 préconise l'exécution du plan de transition en cohérence avec la stratégie intégrée régionale en respectant les engagements pris par le pays dans la région des Grands Lacs, les signataires, les garants et le bureau de l'envoyé spécial du secrétaire général dans le cadre de l'accord cadre d'Addis Abeba.
Notez que d'autres aspects sur le plan de retrait de la MONUSCO seront abordés dans nos prochaines éditions. On en sait un peu plus sur le drame survenu le week-end dernier sur la route Likasi à l'entrée de la ville de Lubumbashi. D'après l'autorité du secteur de Bukanda, où l'accident est survenu, sur la 50aine des passagers, jusqu'à présent, seules 5 personnes mortes ont été retrouvées. D'autres détails avec Jean Gando.
Le chef du secteur Bukanda renseigne que l'accident s'est produit dans la nuit du 9 au 10 octobre dernier. Un bus de transport en commun parti de Lubumbashi vers Likasi a connu une collision à la hauteur du village Kawama dans le secteur de Bukanda, territoire de Kipushi aux environs de 22 heures. Le chauffeur voulant éviter un camion en stationnement rempli de sacs de braise s'est retrouvé nez à nez avec un camion citerne transportant de l'acide en provenance de Likasi. Après la collision, les bus qui avaient une 50aine de passagers à bord a pris feu. Sur place, on a dénombré 3 morts dont les chauffeurs. 2 autres sont morts à l'hôpital. 8 passagers grièvement blessés y sont encore admis. On compte aussi 12 rescapés, ce qui fait un total de 25 personnes. Pour l'heure, indique Jean-Marie Ngombe, on ne sait toujours pas où s'est réparti les 25 autres. Ont-ils fui ou ont-ils aussi péri dans le feu? Difficile d'y répondre, rapporte-t-il. Il ajoute aussi que la route Likasi enregistre beaucoup de cas d'accidents à cause notamment d'une circulation intense des camions remorques qui transportent le minerai. Lubumbashi, Jean Gandou, Radio Okapi.
Et du côté du Nord Kivu, près de 300 cas d'accidents de route ont été enregistrés à Butembo entre juillet et septembre dernier. 21 personnes ont péri dans ces accidents et 84 autres grièvement blessés. Ces statistiques ont été rendues publiques par l'antenne locale de la Commission nationale de prévention routière. C'était en marge de la célébration le 13 octobre de la Journée internationale de la sécurité routière. Eli Bouira Saloumou, chef d'antenne de la CNPR Butembo, attire ici l'attention des usagers de la route sur le respect du nouveau code de la route pour prévenir tout risque d'accident de la voie publique. Eli Bouira au micro de Sadiq Yaboubakar.
Nous avons enregistré pendant ce trimestre 293 cas d'accidents, dont 21 morts, 84 blessés graves et 111 blessés légers, avec aussi 37 motos endommagées et 20 véhicules légèrement endommagés.
Dans la ville.
Dans la ville. Les causes sont vraiment nombreuses. L'ivresse au volant, vraiment, c'est une cause qui est principale.
Pour les conducteurs de voitures ou de motos.
Conducteurs de voitures et conducteurs de motos aussi. Puisque le code de la route nous dit que quand vous conduisez, vous ne buvez pas. Ne buvez pas quand vous conduisez. Et deuxièmement, l'excès de vitesse. Il y a de ces conducteurs-là qui roulent vraiment à vive allure. Ils oublient que la ville est surpeuplée. Il y a une grande population. Alors, ils devraient conduire avec toute imprudence. La troisième cause, c'est l'ignorance du code de la route. C'est-à-dire, beaucoup de conducteurs de véhicules et de motos ne savent pas comment se comporter sur la chaussée. Il y a ceux qui n'ont même pas des notions nécessaires pour conduire sur la chaussée en ville de Butembo.
Actualité internationale. Le tribunal de Bruxelles examine le cas de 5 femmes congo-belges poursuivant la Belgique pour crimes contre l'humanité arrachés à leur mère congolaise. Pendant la colonisation belge, elles ont été placées de force dans des institutions et des établissements religieux, parfois situés à des centaines de kilomètres de leur famille. Chacune des plaignantes demande une indemnisation de 50 000 euros pour ces crimes. Depuis 2019, les autorités belges ont présenté leurs excuses pour le rôle de l'État dans l'enlèvement des milliers de bébés à leur mère. L'année suivante, le roi a exprimé ses regrets pour les violences exercées pendant la colonisation. Avec ce procès, les plaignantes espèrent mettre en avant le sort des enfants métis lors de la colonisation belge.
L'invité.
Un deuxième décès causé par la maladie à virus Ebola a été enregistré mercredi dans la zone de santé de Beni après la réapparition de la maladie le 8 octobre dernier. Comment s'organise sur place la riposte contre cette maladie et comment expliquer que les enfants de moins de 5 ans soient atteints? Réponse avec notre invité, le docteur Michel Kasereka Tosalisana, médecin-chef de zone de santé de Beni et coordonnateur du comité local de riposte contre Ebola. Il s'entretient avec André Kitenge.
Docteur Michel Kasereka Tosalisana, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Dites-nous, depuis la déclaration du premier cas confirmé de maladie à virus Ebola le 8 octobre dernier, c'était un enfant de 2 ans qui est décédé. Comment s'organise la riposte contre Ebola?
Merci beaucoup. Avant même de parler de cette riposte contre Ebola, je dois vous préciser que de manière régulière, nous faisons la surveillance des maladies à travers les relevés épidémiologiques hebdomadaires. Et en plus de ça, nous étions en train de lutter contre la COVID-19. Nous étions déjà organisés en coordination au niveau de la zone de santé de l'équipe cadre. Et de cette manière-là que nous avons aussi commencé la riposte contre cette résurgence de la maladie à virus Ebola. Donc, il n'y a rien de nouveau dans l'organisation.
Concrètement, comment ça se passe?
Au niveau de l'équipe cadre, il y a différentes commissions. La grande commission, c'est la surveillance. Il y a des infirmiers, des membres de l'équipe cadre qui se chargent de la surveillance. Tu sais que la surveillance commence par la recherche et la remontée des alertes. Alors, une fois une alerte est remontée, ça peut être par la communauté ou bien par une formation sanitaire, les investigateurs descendent sur le terrain et s'ils valident le cas comme étant suspect, ils vont l'acheminer à l'hôpital, donc pour traitement, et finir par prélever et vérifier si le laboratoire INRB nous dira s'il y a Ebola ou pas. C'est ça la démarche.
À ce jour, êtes-vous arrivé déjà à identifier toutes les personnes contacts?
Dire toutes, c'est ça l'idéal, mais nous continuons à donner le maximum de contacts. Et comme je l'ai dit, ça dépend de la collaboration avec la communauté. Si la communauté coopère, elle va nous dire qui a été contacté au malade ou bien au décès est confirmé. À notre niveau, nous estimons que les informations qu'ils nous donnent, nous en tenons compte, mais nous continuons toujours à renforcer et à approfondir les investigations. On peut encore dire que peut-être demain, après-demain, et au fur et à mesure qu'ils se livrent à nous, ils peuvent encore déclarer d'autres contacts. Mais à notre niveau, nous estimons que nous sommes en train de lister les maximum de contacts.
Vous êtes déjà à combien de cas comme ça?
À ce jour, nous venons d'enregistrer depuis la déclaration par le ministre le 8 octobre. Nous sommes à 2 cas confirmés.
Quels sont les points d'attention dans cette riposte contre Ebola?
Une fois un cas est confirmé, la première des choses, c'est vraiment l'isolement s'il n'était pas encore isolé. Parce que quand on isole, on contribue largement à la rupture de la chaîne de transmission. Donc l'isolement du malade dans un centre spécialisé, ce n'est pas dans n'importe quelle institution, dans un centre de traitement Ebola. Ça, c'est une première mesure. Autour de ça, maintenant, on doit lisser les contacts pour les suivre. Parce que c'est eux qui peuvent développer encore la maladie dans les jours qui suivent.
On a parlé tant du protocole du docteur Mouyembe. Qu'en est-il au juste? C'est le protocole que vous utilisez?
Nous avons maintenant plusieurs schémas et la molécule dernièrement découverte Ebanga, elle est disponible et les équipes de prise en charge médicale sont pleines d'experts locaux comme nationaux et internationaux. Ils pourront toujours juger de quel protocole utiliser.
Et donc le protocole de Dr Mouyembe n'est pas encore utilisé?
Non, le protocole, je vous dis qu'il n'a pas souffert d'aucune faille. Et vous savez que pour les malades, c'est les cliniciens qui apprécient. Tout ce qu'on doit mettre à la disposition des cliniciens, ce sont les molécules. Une fois il les a, c'est lui qui a choisi que ce malade mérite tel schéma thérapeutique. Et donc, le problème des protocoles ne se discute pas beaucoup. Ce sont les cliniciens qui apprécient.
Comment expliquer qu'un enfant de 2 ans puisse contracter la maladie à virus Ebola?
Ebola peut attraper, tout le monde peut contracter Ebola. Et donc déjà, c'est déjà beaucoup, c'est un sujet. Mais comme les investigations continuent, quand nous remontons la filière, c'est une situation liée à d'autres décès qui avaient été notifiés avant, mais qu'on n'avait pas eu la chance d'examiner, dont on n'a pas fait l'analyse des échantillons. C'était des décès communautaires. Et quand on remonte la filière, il y a ces liens-là épidémiologiques. Et les experts sont déjà sur le terrain. Le moment venu, on vous dira exactement le cas index. Mais à tout âge, on peut attraper Ebola, ne vous en faites pas.
Quels sont devenus ses parents?
Bon, nous sommes en train de suivre leur situation. Ils sont listés comme contact, comme je vous le disais là. Et toute la procédure est connue, les SOP sont connus par rapport au suivi des contacts. Vaccination est suivie pendant 21 un jour, voilà.
Docteur Michel Kasereka Tosalisana, je vous remercie.
Le médecin chef de zone de santé de Beni et coordonnateur du comité local de riposte contre Ebola était avec André Kitenge. C'est la fin de ce journal supervisé par Alain Rongmouchinj, mis en onde de Jean-Noël Mokondo. Retrouvez-le sur www.radiocapi.net. Merci.